Un criminologue canadien, Philippe Bensimon, vient de publier un article sur un véritable tabou du monde carcéral, les relations amoureuses entre les détenus et les membres du personnel. De telles liaisons amoureuses sur les lieux de travail ne sont pas propres à la prison, puisqu'un récent sondage a montré qu'au Canada, 63% des personnes interrogées reconnaissent avoir eu une relation amoureuse avec une personne de leur milieu professionnel, et qu'en France, 30% des couples se seraient formés sur le lieu de travail. Mais ces relations prennent une coloration très particulière lorsqu'elles se déroulent en milieu carcéral, parce que la prison est un lieu contre nature, c'est un lieu fermé, clôturé, et qui met en contact rapproché et permanent deux catégories d'hommes et de femmes qui ne se sont pas choisis et qui finalement vont être assujettis à un même mode de vie très éloigné de la vie ordinaire, un contrôle omniprésent et intrusif, des horaires préétablis et fixes, une proximité des corps. Et ces murs sont relayés par un carcan administratif qui doit tout prévoir et qui prive chacun, aussi bien les gardiens que le gardé, de toute initiative personnelle. Ce syndrome affecte plus le personnel féminin que masculin. Il va de soi que la relation entre un homme et une femme détenue apparaît spontanément plus abusive que l'inverse. Elle concerne, à vrai dire, un grand nombre de profils, d'âge, de niveau social, de fonction. Elle n'exclut pas d'ailleurs les aumôniers. Et elle concerne aussi bien les relations hétérosexuelles qu'homosexuelles. Mais comment, vous demanderez-vous, une femme mariée, professionnelle modèle, psychologue, professeur, mère de 3 enfants, au dossier irréprochable, peut-elle tomber dans une telle situation? Eh bien, Bensimon décrit les indices de la conversion d'une relation d'aide à une personne détenue en une relation amoureuse. Lorsque la professionnelle commence à lui consacrer plus de temps que nécessaire, lorsqu'elle lui parle de ses problèmes personnels, lorsqu'elle se soigne elle-même plus que d'habitude, et notamment qu'elle modifie son apparence vestimentaire, lorsqu'il lui arrive de penser souvent à cette personne une fois à l'extérieur des murs, lorsqu'elle est sur la défensive, lorsqu'un collègue lui parle de ce cas ou lui fait une remarque, lorsqu'elle hésite ou qu'elle est embarrassée de discuter de ce cas avec ses collègues, lorsqu'elle ne respecte plus des règles interne et par exemple qu'elle fixe un rendez-vous en dehors des heures régulières de travail. On mesure à quel point cette frontière est ténue entre une relation de sollicitude, d'aide et une trop grande implication personnelle. Les psychiatres ont donné un nom à cela, ils appellent hybristophilie, l'attirance pour les criminels. Une attirance érotique, parfois délirante d'ailleurs, pour l'image du rebelle, du voyou, pour la fascination de la transgression d'un interdit et par le romantisme d'une telle union paradoxale entre une professionnelle de la loi, qu'elle soit thérapeutique ou juridique, et un délinquant. On nomme enclitophilie les hommes attirés par les femmes criminelles. Et d'ailleurs, il y a un autre syndrome, je suis navré de cette litanie, appelée par les anglo-saxons Florence Nightingale, qui était une infirmière qui vantait avec passion les mérites de la profession d'infirmière. Et on a donné ce nom pour caractériser des passages à l'acte d'infirmières sur leurs patients. Enfin, il y a le syndrome de Bonnie and Clyde, qui désigne les couples qui se sont structurés autour de la délinquance. Du côté des détenus, eh bien sûr, il y a le syndrome de Stockholm qui développe une empathie, voire une identification à ses geôliers. Alors, la plupart de ces aventures ne résistent pas à la sortie de la détention et sont pour l'immense majorité brèves, et puis elles se terminent la plupart du temps par des condamnations pénales. Comment les prévenir? Alors, la réponse passe bien sûr par un recrutement plus sélectif, même si les études montrent que les personnes affectées par ce syndrome sont souvent des employés modèles, très bien notés, très engagés, trop engagés, à vrai dire. C'est ça qui pose problème. Ce qui semble le plus efficace est de sensibiliser les employés à ce risque professionnel très particulier contre lequel personne n'est, à vrai dire, jamais immunisé et de recommander une prise de distance. Peut-être aussi faut-il mettre en place un mécanisme, un numéro vert, la possibilité de parler à un professionnel à la retraite, bref, des moyens de sortir de cette relation pendant qu'il est encore temps, et de pouvoir le faire sans honte ni crainte de sanction. Et d'ailleurs, je remarque que de tels mécanismes sont mis en place également dans les programmes de lutte contre la corruption.